VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 3 juillet 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Jean-Roger Bion. Pour commencer les titres.
En République centrafricaine, une quinzaine de morts dans des échanges de tirs entre casques bleus et des éléments ex-Séléka.
Au Mali, sommet à Bamako du G5 Sahel en présence du président français Emmanuel Macron.
Au Soudan, Omar El-Béchir prolonge jusqu'à la fin du mois d'octobre le cessez-le-feu en vigueur dans le Darfour, le Nil Bleu et le Kordofan Sud.
Attentat suicide meurtrier hier à Damas en Syrie et dans la province d'Anbar en Irak.
L'Arabie Saoudite et ses alliés prolongent de 48 heures l'ultimatum fixé au Qatar.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Nouvelle violence en République centrafricaine où des échanges de tirs entre des éléments de l'ex-Séléka et des casques bleus ont fait une quinzaine de morts dans le centre du pays. Les précisions, Timothée de Langmaï.
Un responsable d'ONG internationale que cite l'AFP affirme qu'au moins 15 combattants de l'ex-Séléka ont été tués dans la fusillade survenue à Kagabandoro, à 400 km au nord de Bangui. La mission de l'ONU en RCA, la MINUSCA, et diverses sources sécuritaires attribuent la responsabilité de l'incident à des membres du groupe ex-Séléka du Mouvement patriotique pour la Centrafrique, le MPC. Les hommes du MPC se mêlent à pagaille et se sont confrontés aux contingents pakistanais et burundais de la MINUSCA stationnés dans la ville, rapporte l'une des sources. Pour le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Montero, les forces de la MINUSCA ont fait leur travail en protégeant les populations civiles des éléments du MPC. Chef-lieu de la préfecture de Nanagrebizi, Kagabandoro accueille depuis l'automne 2016 près de 20 000 déplacés. Les violences y ont repris depuis la fin mai 2017, rendant difficile l'intervention des humanitaires dans cette région.
Au Mali et en présence de leur homologue français Emmanuel Macron, les dirigeants des pays du G5 Sahel se sont entendus dimanche à Bamako sur la constitution d'une force anti-djihadiste conjointe et débloquer des fonds pour commencer son déploiement en septembre-octobre. Réunis en sommet sous haute sécurité, les présidents Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Idriss Déby Itno du Tchad, Mohamed Ould Abdelaziz de Mauritanie, Marc Christian Kabore du Burkina Faso et Mahamadou Issoufou du Niger ont promis d'apporter chacun 10 millions d'euros qui s'ajouteront aux 50 millions d'euros promis par l'Union européenne. La force coûtera 423 millions d'euros selon le président malien Ibeka.
Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition avec Kassim Traoré. Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP du président déchu Blaise Compaoré, a dénoncé dimanche à Ouagadougou des attaques et des menaces contre les domiciles des membres du parti. Le président du parti, Léonce Kone, a donné hier une conférence de presse à ce sujet. En septembre dernier, le CDP avait reporté s'inédier son congrès extraordinaire devant renouveler ses structures, s'estimant victime de répression et d'acharnement du régime du président burkinabé, Roch Marc Christian Kabore.
Le président soudanais Omar El-Béchir a prolongé dimanche jusqu'à la fin du mois d'octobre le cessez-le-feu en vigueur dans les États du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan Sud. Une mesure qui s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement en vue de ramener la paix, selon les médias soudanais. Précision de Claire Morin-Gibourg.
D'une durée initiale de 4 mois, le cessez-le-feu conclu en juin 2016 a été prolongé à 3 reprises par le passé. La dernière prolongation, décidée par le président Omar El-Béchir, intervient 2 semaines avant la décision des États-Unis de lever les sanctions prises il y a 20 ans contre le Soudan. L'administration de l'ancien président américain Barack Obama avait annoncé le 13 janvier qu'elle allait lever l'embargo contre le Soudan, citant la contribution de ce pays dans la lutte contre le groupe État islamique et d'autres organisations extrémistes. Toutefois, elle avait instauré une période probatoire de 6 mois pour voir si le gouvernement de Khartoum prendrait des mesures pour améliorer l'état des droits humains au Soudan et résoudre les conflits politiques et militaires, y compris au Darfour. Fin juin, l'émissaire américain pour le Soudan, Stephen Coutsis, avait salué dans un entretien à l'AFP l'extrême retenue de Khartoum face aux attaques rebelles durant l'année écoulée au Darfour. Il avait souhaité que le Soudan prolonge d'au moins 6 mois le cessez-le-feu unilatéral au Darfour et dans les 2 autres États déchirés par des conflits.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, un kamikaze au volant d'une voiture piégée a fait hier au moins 18 morts et une dizaine de blessés dans le centre de Damas, la capitale, selon les médias d'État et l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Cette ONG précise que ce véhicule faisait partie d'un groupe de 3 voitures qui avaient été prises en chasse par les autorités tôt dimanche. Ce genre d'attaque, la plus grave depuis mars, est plutôt rare à Damas. On soupçonne l'organisation État islamique et d'autres groupes djihadistes.
Et en Irak, un autre kamikaze a tué au moins 14 personnes et fait 13 blessés dans un camp de déplacés situé à l'ouest de Ramadi, la capitale de la province d'Al-Anbar. Aucune revendication immédiate de cet attentat. Les forces irakiennes ont repris les villes de Ramadi et de Fallujah aux combattants du groupe État islamique, mais ces djihadistes continuent de contrôler des parties dans l'ouest de la province.
Pendant ce temps, les forces soutenues par les États-Unis en Syrie ont pénétré pour la première fois dimanche dans le fief djihadiste de Raqqa par le sud, en traversant l'Euphrate, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Après une manœuvre d'encerclement qui a pris des mois, les forces démocratiques syriennes, les FDS, une alliance de combattants kurdes et arabes, avaient coupé jeudi la dernière issue permettant aux combattants du groupe État islamique de fuir cette ville septentrionale en s'emparant d'une région au sud de l'Euphrate.
L'Arabie saoudite et ses alliés, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte, ont annoncé aujourd'hui, avant l'aube, avoir décidé, à la demande du médiateur koweïtien dans la crise du Golfe, de prolonger de 48 heures l'ultimatum fixé au Qatar pour répondre positivement à leur liste de 13 demandes. Le Qatar avait demandé une telle prolongation peu avant l'expiration de l'ultimatum de ses adversaires. Ces derniers exigent notamment la fermeture de la télévision Al Jazeera et d'une base militaire turque, ainsi que la réduction des relations avec l'Iran.
Les États-Unis et le Japon sont unis dans leurs efforts pour faire pression sur la Corée du Nord, dont les programmes nucléaires et balistiques constituent une menace, a indiqué dimanche la Maison-Blanche. C'était à la suite d'un entretien téléphonique hier soir entre le président Donald Trump et le premier ministre Shinzo Abe. Monsieur Trump a également discuté de la question dans un autre entretien téléphonique avec son homologue Xi Jinping.
Son homologue chinois. Au Japon, la formation conservatrice du premier ministre Shinzo Abe a enregistré dimanche une défaite historique lors d'un scrutin local à Tokyo. Selon la presse, cet échec risque d'avoir des conséquences sur le gouvernement. La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, élue en juillet 2016, a obtenu plus que la majorité absolue avec la coalition formée autour de son nouveau parti appelé Kokumin First, les habitants de la capitale d'abord.
En Allemagne, c'est aujourd'hui, ce lundi, que la chancelière Angela Merkel lance sa campagne en vue de se succéder à elle-même pour un 4e mandat de 4 ans cet automne. Elle doit présenter un programme au moment où elle est accusée de se reposer sur son bilan. Son rival social-démocrate, Martin Schulz, a déjà démarré sa campagne il y a plusieurs mois en permettant plus de justice sociale, des réductions d'impôts sur les couches populaires et moyennes, ainsi qu'une pression fiscale accrue sur les plus riches.
Merci, c'est tout pour ce journal. La Minute Éco, Morgane Guiriec.
La Côte d'Ivoire a officiellement mis en service vendredi le barrage hydroélectrique de Soubré, indique l'AFP. Il a été construit par la Chine pour résorber le déficit énergétique du pays. Lors d'une cérémonie, le Premier ministre ivoirien a procédé à la mise en marche d'une des quatre turbines qui composent cet ouvrage d'une puissance de 275 mégawatts. D'un coût de 331 milliards de francs CFA, la construction de ce barrage de 4 km de long, démarré en 2013 dans le sud-ouest du pays, a été financée par la Chine à hauteur de 85%. La Banque africaine de développement appelle les institutions financières à accroître les prêts et à fournir des instruments de financement plus diversifiés et innovants aux micro, petites et moyennes entreprises africaines. C'est ce que rapporte l'agence Ecofin. Selon l'institution financière panafricaine, les établissements de crédit financier doivent augmenter leurs prêts à plus de 135 milliards de dollars pour faire face à la demande des micro, des petites et moyennes entreprises. Le dynamisme entrepreneurial africain est actuellement un tournant important. D'après la BAD, environ 80% des Africains considèrent l'esprit d'entreprise comme une bonne opportunité de carrière. Et enfin, le Ghana vient de signer un protocole d'entente avec la Chine pour développer son industrie de la bauxite. D'après le gouvernement, le protocole d'entente, qui prévoit un financement de 10 milliards de dollars de Pékin, devrait permettre la construction de 1400 km d'un chemin de fer connecté à un futur réseau de 4000 km de voies ferrées qui relieront des mines de bauxite à des sites de production, rapporte l'agence Reuters.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football avec la Coupe des Confédérations et les Allemands sortent vainqueurs du tournoi.
Oui, championne du monde en titre, l'Allemagne a remporté hier cette compétition en dominant en finale le Chili 1-0. L'unique but de la partie a été marqué par Lars Stend à un an du mondial en Russie. La Mannschaft de Joachim Löw fait donc le plein de confiance et succède au palmarès au Brésil titré en 2013. Pour rappel, la troisième place est revenue au Portugal, tombeur du Mexique 2-1 après prolongation.
Football toujours avec un week-end consacré aux Coupes africaines des clubs.
En Ligue des champions, trois clubs ont obtenu leur qualification pour les quarts de finale. L'Étoile du Sahel qui est allé faire match nul au Mozambique face à Ferroviaro, un but partout. Dans ce groupe A, Al Merrikh s'est relancé en remportant le derby d'Ondouman 2-1 face à Al Hilal. Qualification également pour les Mamelodi Sundowns, vainqueurs de Saint-Georges 1-0 en Éthiopie, et l'Espérance de Tunis, auteur de nul à Kinshasa face à V-Club 2 partout. Le club congolais est en revanche éliminé.
La cinquième et avant-dernière journée des matchs de poule était au programme.
Forcément, et dans le groupe D, 0-0 entre Zanaco et le National du Caire. Al Ahly, qui a d'ailleurs vu le Wydad de Casablanca lui prendre la deuxième place suite à sa victoire de 2-0 à Garoua contre le Coton Sport. Plus compliqué pour l'autre club égyptien, le Zamalek dans la poule B, battu à Harare par Caps United 3-1. Les Chevaliers Blancs, qui ont limogé leur coach, le Portugais Augusto Inácio, ont manqué de se rapprocher du duo de tête Usma et Ali Tripoli, qui ont d'ailleurs fait match nul un but partout.
Dans les autres poules, il faut attendre la dernière journée.
Oui, Idrissa, et qualification du Moulidia d'Alger et du club sportif sfaxien dans la poule B. Ça passe aussi pour les Soudanais d'Al Hilal Obeid dans le groupe C, grâce à leur victoire de 2-0 face aux Angolais de Libolo. En revanche, dans le groupe D, Oroya a été accroché à domicile par les Sud-Africains de Supersport United, 0 but partout. Un résultat décevant pour les Guinéens, qui laissent du coup la première place du groupe aux Congolais de TP Mazembe, vainqueur 1-0 du CF Mounana. Et puis, rien n'est encore joué dans le groupe A. Le club africain de Tunis et les Ougandais de Kampala City sont en tête avec 3 points d'avance sur leur poursuivant direct. La dernière journée promet donc.
Élisée, il y a eu également des qualifiés en Coupe de la Confédération. Athlétisme pour finir avec la Ligue de Diamants qui était à Paris et Ben Youssef Meïté a remporté le 100 mètres.
L'Ivoirien s'impose en 9 secondes 96 centièmes. Il a égalé son record personnel. Ben Youssef devance donc le Sud-Africain Akane Simbine et le Néerlandais Chouandi Martina. Autre performance africaine, c'est en 3000 mètres steeple chez les dames avec le triplé kenyan Beatrice Kipkoch l'emporte devant Yvine Kinyeng. Et puis toujours chez les dames, l'ivoirienne José Marie Talou prend la deuxième place du 100 mètres derrière la jamaïcaine Hélène Thompson. La nigériane Blessing Okabare complète le podium.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le projet d'une force commune antiterroriste de 5000 hommes du G5 Sahel devrait être opérationnel à la mi-août au plus tôt. Outre les 50 millions d'euros de l'Union européenne, la France va investir 200 millions d'euros d'ici la fin de l'année. L'annonce en a été faite par le président français Emmanuel Macron, qui a participé au sommet extraordinaire du G5 Sahel tenu hier à Bamako. Au cours de cette rencontre, le président Ibrahim Boubacar Keïta a par ailleurs souligné qu'il ne retirera pas son projet de révision constitutionnelle. Le point avec Kassim Traoré.
Le président français Emmanuel Macron, principal hôte du sommet, n'était pas venu à Bamako pour annoncer un désengagement français. Au contraire, il a fait des propositions pour soutenir la force conjointe du G5 Sahel. Emmanuel Macron, président de la République française.
Pour ma part, j'ai donc confirmé le soutien de la France à cette initiative, qui passera d'abord par un soutien opérationnel aux unités, avec un soutien accru de l'opération Barkhane en conseil, assistance et accompagnement au combat. Une aide matérielle importante, avec 70 véhicules tactiques, du matériel de communication et d'interopérabilité des forces, du matériel de protection pour les hommes.
Les dirigeants des pays du G5 Sahel, le Mali, le Tchad, le Niger, la Mauritanie et le Burkina Faso doivent contribuer pour faciliter la mobilisation de 423 millions d'euros. Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État du Mali, présent en exercice du G5 Sahel.
Financement tel que nous l'avons évalué, 423 millions d'euros. Chacun de nos États va faire l'effort de 10 millions d'euros. Convertissons, je crois que ça fait 6 milliards. C'est quand même assez appréciable. Cela parce que nous souhaitons aller assez vite. Il y a urgence là, il y a urgence. Parce que ceux que nous avons en face de nous n'attendent pas. Ils l'ont prouvé encore, et c'est pas vous qui allez l'apprendre. Ils l'ont encore prouvé. Donc, il nous faut aller vite. Il nous faut aller vite, mais vite et bien.
La France s'engage aux côtés des pays du G5 Sahel pour combattre le terrorisme. Le président français n'a pas oublié les questions de développement.
Notre engagement pour développer justement les initiatives d'accompagnement de la composante militaire de notre intervention. Une initiative spécifique sur les pays du G5 Sahel mobilisera 200 millions d'euros spécifiquement pour donc les pays du G5. Les projets à impact rapide aussi bien que les actions de moyen et plus long terme qui sont structurantes et qui sont centrées sur les priorités éducation, agriculture, énergie renouvelable principalement. Et l'AFD est pleinement mobilisée dans justement ces initiatives.
Lors de ce sommet extraordinaire du G5 Sahel, le président Ibeka est revenu sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'Alger 2015.
L'accord pour la paix et la réconciliation, signé en Alger. Nous l'avons fait en toute liberté. Mais on va essayer par des malices, par des biais divers, de mettre en cause cet accord-là. L'une de ces malices consiste à faire un tollé contre le référendum, le projet de loi référendaire, au motif qu'il serait un projet d'augmentation exponentielle des pouvoirs du président Keïta. Il n'en est rien du tout. Il n'a aucune espèce d'intérêt personnel à cette affaire, aucune.
Ibeka a affirmé avec insistance le maintien de son projet de révision constitutionnelle, qui est lié, selon lui, au respect de l'accord d'Alger 2015.
Nos amis sont sortis du bois pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Alors qu'ils ont été d'accord avec nous, mais in fine, non, non. non seulement nous ne sommes pas plus d'accord, mais même mieux, le président Keïta serait mieux inspiré de retirer ces documents-là du circuit. Si je le fais, je trahirai mon pays. Je ne le ferai pas. Cela dit, la Cour constitutionnelle, qui est dont l'autorité est sans conteste, va opiner. Elle dira le droit. Je sais, on joue sur un aspect. L'article 118 de la Constitution dit pas de révision constitutionnelle quand une partie du pays ou la partie du pays est occupée par sa étrangère. Quelle est la puissance étrangère qui occupe le Mali? Il n'y en a pas.
Sur la question de la révision constitutionnelle au Mali, Emmanuel Macron trouve que c'est une question de souveraineté malienne. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Niger, l'évaluation des 60 enseignants contractuels annoncés par le gouvernement se tiendra à la mi-juillet. Mais tous les syndicats d'enseignants appellent à un boycottage d'une telle évaluation, la jugeant contraire au texte en vigueur. Reportage de notre correspondant Abdourazak Idrissa.
C'est un communiqué du ministère des enseignements primaires qui informe de la tenue les 15 et 16 juillet prochains de cette évaluation voulue depuis février par les autorités à la suite de constats sur une baisse, sinon un manque total de niveau chez les enseignants contractuels en particulier. Daouda Mamadou Marté, ministre des enseignements primaires.
Je vais vous donner, pour que vous compreniez, quelques-unes des questions qui leur ont été posées. Abdou a 26 poules. Le chat de son voisin en a dévoré la moitié la nuit dernière. Combien de poules lui reste-t-il? Il y a eu des mes enseignants qui ont eu zéro. Fanna Lapotière a fabriqué 30 canaries. Très tôt le matin, son petit-fils en a cassé 12. Combien de canaries possède-t-elle maintenant? Mes enseignants, certains de surcroît directeurs d'école ont eu zéro. Vous voyez bien que... À partir de cet instant, nous sommes interpellés.
Sans s'opposer au principe de cette évaluation, les syndicats d'enseignants appellent leurs militants à la boycotter parce que dans la forme, elle est contraire aux dispositions du statut général de la fonction publique qui régit aussi les contractuels. Moukaila Alidou, secrétaire général du syndicat des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base.
Le statut de la fonction publique dit qu'on ne peut pas faire une évaluation qu'en situation de classe. Et voilà que le ministère aujourd'hui veut vouloir prendre les enseignants, les mettre dans une classe avec deux épreuves, une en français, une en mathématiques, pour dire qu'ils sont en train de chercher la qualité. On dit que les enseignants n'ont pas de niveau, je l'ai suivi, où il dit qu'il y a des enseignants qui ne savent même pas un kilomètre égal à combien de mètres. Mais cet enseignant a été recruté comment? C'est eux qui les ont recrutés, ce ne sont pas les syndicats.
L'idée première de cette évaluation était qu'elle devait concerner tous les enseignants, et malgré le fait que ceux qui sont immatriculés à la fonction publique et qui constituent le plus grand nombre des militants de son syndicat ne soient plus évalués, et souffrent Arzika, le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, s'insurge contre la forme de cette évaluation.
Avec son évaluation, entre guillemets, le ministre Marté va planter le système éducatif s'il continue comme ça. Et c'est déjà un système éducatif nonchalant. Ça aura beaucoup de conséquences sociales, économiques. Et on ne sait pas ce qu'ils deviendront. Les anciens qui vont être remerciés. Il avait martelé avant qu'ils ne remercieront personne. Non, mais pendant les négociations, le président du comité a été clair. Il dit, si Marté ne peut pas vous dire, moi je vous l'ai dit. Nous allons remercier ceux qui ne sont pas capables de continuer à apprendre aux élèves. Il l'a dit. Maintenant, hier, il nous répète qu'il ne va pas le faire. On va voir.
Les contractuels sont recrutés par l'État pour pallier au manque de personnel enseignant. Beaucoup d'entre eux accèdent à la fonction sans formation de base. Ils représentent aujourd'hui plus du tiers du corps enseignant du pays. Et cette évaluation est perçue chez les syndicats et beaucoup d'autres citoyens comme une façon pour le gouvernement de réduire leur nombre. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'Organisation internationale pour les migrations a classé les ressortissants ivoiriens en tête de liste des candidats à l'immigration clandestine en Europe. Pour faire face à cette crise, les autorités ivoiriennes ont lancé une vaste campagne de sensibilisation. D'Abidjan, notre correspondante Narita Namasté fait le point.
La Côte d'Ivoire est devenue l'un des principaux pourvoyeurs de migrants. Un phénomène paralysant pour le gouvernement ivoirien qui prend les dispositions pour sensibiliser sa jeunesse à ne pas se livrer à cette aventure clandestine qui a déjà enregistré la mort de plus de 6000 Africains dans la Méditerranée. Des projections de fumée de sensibilisation sont diffusées dans des quartiers. Des bureaux d'écoute et conseils ont également été ouverts pour des potentiels candidats qui veulent aller en Europe.
L'un des axes de la stratégie que nous avons mise en place, c'est d'intensifier notre campagne de sensibilisation que nous avons commencée il y a déjà 2 ans et nous n'avons pas attendu qu'il y ait cet afflux de migrants sur les côtes italiennes. La responsabilité d'un gouvernement comme le nôtre, puisqu'il est dit que nous avons un contingent assez élevé d'Ivoiriens parmi ces migrants qui débarquent en Europe. Et donc, il était de notre devoir d'accentuer cette campagne de sensibilisation.
Des projections de fumée de sensibilisation sont diffusées dans des quartiers. Des bureaux d'écoute et conseils ont également été ouverts pour des potentiels candidats qui veulent aller en Europe. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, ce sont plus de 12 000 Ivoiriens qui se retrouvaient en Libye en 2016, dans l'attente et l'espoir de traverser la Méditerranée. Pour Mme Vijaya Souri, représentante de l'OIM, il faut accentuer la sensibilisation et encadrer ces jeunes à utiliser la voie légale.
Pour tout ce qui est migration, c'est un désir naturel. Et quand c'est fait dans des conditions régulières, pour nous, c'est idéal. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on sait que les conditions ne sont pas du tout favorables. Les migrants souffrent énormément. Il y a beaucoup d'abus et d'exploitation. Et qu'arriver à destination, dans beaucoup de cas, l'idée de ce qui se faisait de leur destination et de leur meilleure vie, elle n'est pas tout à fait à l'appel.
Alassane Diak, qui était 17 ans, revenu depuis 6 mois de la Libye, a dépensé près de 1 500 $ pour tenter la traversée en passant par le Burkina Faso, le Niger, avant d'atteindre la Libye. Selon Alassane Diakité, cette expérience est honteuse et horrible. Un cauchemar qu'il n'est pas prêt à oublier. Il appelle donc l'État de Côte d'Ivoire à faciliter l'emploi pour les jeunes pour que certains de ses frères africains ne s'adonnent pas à cette aventure qu'il qualifie de suicidaire.
Bon, là-bas, c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a la guerre, chaque jour, c'est armes qui tirent partout. Il n'y a pas un Libyen que tu vas le voir qui n'a pas d'armes. Tout le monde est armé là-bas. Je suis quitté ici, je suis passé par Burkina, Niger, rentré en Libye. Ça m'a coûté au moins 800 000, sinon c'est plus que. C'est que moi j'ai pu dire à nos cadres d'essayer de nous aider, on va essayer de travailler au pays et participer à l'économie de nos pays aussi. Je peux rester ici pour travailler.
La Côte d'Ivoire a enregistré plus de 800 migrants illégaux arrivés en Italie de janvier à février 2017. Selon les autorités italiennes, on estime aujourd'hui à plus de 12 000 le nombre d'Ivoiriens qui ont traversé la Méditerranée depuis la fin de l'année dernière. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Guinée pour terminer, à Kindia, ville à forte activité agricole située à 132 km de Conakry, la majorité des femmes est déscolarisée ou non scolarisée. Pour oublier l'échec scolaire, ces femmes apprennent des métiers pour s'autonomiser, nous dit dans ce reportage notre correspondant Zakaria Kamara.
Dans ce quartier de Kindia, l'une des nombreuses coopératives dans la ville mène diverses activités. Ici, plus de la moitié des 280 femmes de l'association exercent l'activité de teinture. Certaines, comme cette mère de famille, sont venues apprendre. À défaut de l'école, je suis venu apprendre un métier. Dieu merci, j'arrive à nourrir mes 4 enfants. La spécialité de cette activité, c'est le kundili, une déformation de candle en anglais, bougie en français. La technique consiste à faire fondre les bougies dans de l'eau bouillante. Il faut d'abord faire fondre la bougie et après on ajoute de l'eau avant de refroidir le mélange. Ensuite, commence la pose du bois sur le pagne. Pour marquer les dessins sur les pagnes, les femmes ont fait appel à l'imagination des menuisiers. Kendili, l'une des réputations de Kindia, une technique qui se transmet d'une génération à l'autre. Témoignage de deux sexagénaires.
Mes parents faisaient le kindili, je le fais à mon tour depuis mon jeune âge. Avant, on broyait les noix de cola. Le mélange était utilisé sur les pains blancs. Mais ces bonnes techniques n'existent plus. Comme la majorité des membres du groupe de Kondita Mosquée, la présidente n'a pas continué les études. Mais avec la teinture, elle semble satisfaite. Apprendre des métiers, c'est comme aller à l'école. Nous maîtrisons cette technique. Nous pouvons mieux faire. Alors aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous. À quelques mètres du centre, des jeunes élèves tapent sur du kindili séché à l'aide de bois de plus de 5 kilos.
À l'air là, il n'y a pas d'école. L'école est fermée. Nous sommes venus pour taper le pain là. Après, s'il y a un peu d'argent qui sort, nous allons acheter les habits, des tenues, des cahiers. Après ouverture, nous allons partir à l'école.
La teinture est une activité qui connaît un succès retentissant ici, même les gens.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jean-Roger pour le suivi de l'actualité et Sim Sloumami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.